Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quelle stratégie choisir face à l'offensive turque en Syrie? Elle a été lancée hier après-midi contre les Kurdes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans la journée à New York. Nous nous pencherons sur la possible réponse française. Nous revivrons aussi la journée d'audience hier à la cour d'assises spéciale de Paris où sont jugées notamment deux jeunes femmes pour avoir organisé un attentat près de Notre-Dame. L'expert psychiatrique a été entendu hier. Et puis l'OCDE veut donner plus de pouvoir aux États pour taxer les multinationales, elle l'a dit hier, mais elle n'a pas convaincu l'ONG Oxfam, vous l'entendrez. L'Union européenne, l'ONU ou les États-Unis, la plupart des grandes puissances condamnent l'offensive de l'armée turque contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Cette nuit, le bilan provisoire était de 15 morts, dont 8 civils. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra en urgence aujourd'hui à New York pour déterminer la réaction internationale à avoir face à cette offensive. La France l'a déjà condamnée par la voix de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, mais il reste encore des questions sur ce qui se passera dans les jours qui viennent, Franck Cognard.
L'opération Source de paix, puisque c'est le nom donné à cette offensive par Ankara, vise à placer sous contrôle turc une bande de 120 km de long et 30 km de large. L'objectif est d'en chasser les Kurdes, des terroristes pour le gouvernement turc officiellement, pour mettre en place une zone de sécurité. Cette opération, même si elle reste peu étendue géographiquement pour l'instant, pose une question à l'état-major français. Faut-il retirer du Kurdistan les forces spéciales françaises qui y sont discrètement implantées depuis 2014? Ce détachement, baptisé Task Force Hydra, compte un peu plus d'une centaine d'opérateurs qui forment et encadrent les forces kurdes qui combattent à leur côté. Des soldats français ont été blessés sur le terrain et l'un d'eux, l'adjudant-chef Stéphane Grenier, y a été tué il y a 2 ans. Il y a une autre interrogation, morale, parce qu'abandonner les Kurdes, c'est tourner le dos à ceux qui étaient au sol, l'infanterie de la coalition anti-Daesh, ceux qui ont payé le prix du sang, comme disent les militaires, pour que tombe le califat territorial.
J'ajoute que le président américain était interrogé hier sur la possibilité d'une alliance avec les Kurdes contre la Turquie. Donald Trump a répondu que ces derniers n'avaient pas aidé les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et le débarquement en Normandie. Fin de citation. En Tunisie, le parti religieux Ennahda est arrivé en tête des législatives organisées dimanche dernier. Le second tour de la présidentielle, lui, se tiendra ce dimanche. Le juriste indépendant Kaïs Saïd sera opposé au patron des médias, Nabil Karoui, qui est sorti de prison hier soir in extremis sur décision de la Cour de cassation. Il était emprisonné pour fraude et blanchiment d'argent. La police allemande dit avoir arrêté une personne suspectée dans l'attentat d'hier dans la ville de Halle. Un homme a tué 2 personnes et en a blessé 2 autres grièvement en filmant ses actes et en les diffusant sur Internet. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h. 7 pays européens ont donné leur accord de principe pour répartir les migrants dans l'Union européenne. Il s'agit de la France, l'Allemagne, l'Italie, Malte, du Luxembourg, de l'Irlande et du Portugal. Cette initiative doit permettre à terme d'accueillir au cas par cas des demandeurs d'asile. Des migrants dont le périple continue une fois en Europe. Ainsi, hier en Île-de-France, des dizaines de migrants soutenus par des associations ont manifesté devant certaines préfectures, notamment celle de Bobigny. Ils dénoncent l'attente trop longue pour prendre rendez-vous sur Internet afin de faire leur demande d'asile. Johan Delhomme est responsable des questions de droit au séjour pour la CIMAD en Île-de-France. Il nous explique le sens de ces rassemblements d'hier.
Le premier objectif, c'est de rappeler que les personnes n'ont pas de rendez-vous, n'arrivent pas à avoir des rendez-vous sur les premières demandes et maintenant aussi sur des renouvellements. Et donc, c'est rendre visible cette situation. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de dire tout service public doit être ouvert à toute personne et on doit pouvoir y accéder par le biais d'Internet ou par le biais physique ou par le biais de courrier. Donc, avoir d'autres formes d'accès, en fait, au service public, au guichet. Et le troisième point qui est le plus déterminant, c'est de dire on a besoin d'avoir des agents en nombre suffisant pour accueillir les personnes pour les régularisations ou pour les renouvellements puisqu'on sait qu'il n'y a pas assez d'agents au guichet. Et on sait qu'il y a des décisions politiques qui sont d'affecter des personnes au service de fraude, à l'éloignement, à l'expulsion, mais pas sur l'accueil de services du public. Les milliers de personnes qui n'arrivent pas à se régulariser, alors que bon nombre d'entre elles rentrent dans les clous de la loi, sont sous le risque d'expulsion en fait. On a des personnes qui ont des familles, qui sont en situation régulière, mais elles n'arrivent pas à avoir rendez-vous, peuvent être expulsées à tout moment, alors qu'aux yeux de la loi, elles ont droit à une carte de séjour. Et la deuxième forme qui se développe depuis 1 an, c'est les renouvellements de carte de séjour. Donc on a des personnes qui ont une carte de séjour, qui ont un travail, qui ont leur famille, qui ont un emploi et un logement, qui perdent leur droit au séjour et donc qui perdent leur emploi. Qui sont menacés par rapport à leurs droits sociaux en général. Et ce qui est une thématique nouvelle qui montre que structurellement, il y a un problème dans l'accueil des personnes étrangères.
Des propos recueillis par Vianney Smiarovski pour France Culture. Le procès de l'attentat raté au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris se poursuit toujours à Paris. En septembre 2016, une voiture remplie de bonbonnes de gaz y avait été retrouvée. 8 personnes sont aujourd'hui jugées devant la cour d'assises spéciale. Hier, elle a entendu le psychiatre qui a expertisé les 2 principales accusées, Antoine Marette.
Est-ce Ornella Gilligman qui a entraîné Inès Madani à tenter de commettre un attentat ou l'inverse? Les 2 accusés se rejettent la responsabilité. La cour d'assises spéciale aimerait avoir des réponses du côté de l'expertise psychiatrique. Aucune des 2 ne souffre de pathologie. Inès Madani a été très marquée par 2 agressions sexuelles qu'elle a tuées et par la mort de sa grand-mère. Pendant son adolescence, elle se réfugie dans le tabac, l'alcool, la cocaïne et le cannabis, jusqu'à cette rencontre avec Anissa, de 10 ans son aînée, qui va l'introduire auprès de Daesh. Inès Madani trouve en Anissa un modèle qui a réponse à tout. Elle tourne la page des addictions qui apaisent son malaise identitaire et elle s'immisce dans le système de pensée totalitaire de l'organisation terroriste. Quand Anissa part en Syrie, Inès Madani se retrouve seule et reproduit cette expérience matricielle avec d'autres femmes, mais en inversant les rôles, elle se fait passer pour un homme auprès de jeunes femmes. Elle fait preuve d'une habileté particulière dans ce rôle et se prend au jeu. N'y a-t-il pas dans ce double une forme de schizophrénie ? Demande le président. Non, répond le psychiatre, il n'y a pas de maladie mentale de ce type chez Inès Madani. Les hommes et les femmes qui ont une double vie ne sont pas si rares, mais tout le monde n'a pas les moyens de développer une telle habileté, ajoute le psychiatre. Car Inès Madani a ainsi trompé 10 de femmes et surtout Ornella Gilligman qui plaide la passion amoureuse qui l'a entraînée malgré elle. Le psychiatre croit à cet investissement amoureux, mais il n'exclut pas que la jeune femme ait par la suite majoré la passion et minoré l'adhésion radicale. Il conclut au sujet des 2 accusés, chacune conteste ce qui est le plus gênant. Pour Ornella Gilligman, c'est l'engagement radical avant l'amour. Pour Inès Madani, c'est la dimension sexuelle et affective.
Réquisition prévue cet après-midi dans ce procès. Les débats sur le projet de loi bioéthique ont pris fin hier soir à l'Assemblée nationale. Le vote solennel est prévu mardi prochain. Plus de 2000 amendements au total ont été examinés, mais certains élus ont regretté que l'ouverture à la PMA pour toutes les femmes ait pris toute la place dans les débats. Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, par exemple, a fait voter un texte qui met fin à la technique dite du bébé médicament. Une technique qui permettait de concevoir un bébé pour sauver un grand frère ou une grande sœur atteinte d'une maladie génétique. Annie Genevard regrette que la PMA pour toutes ait occulté tout cela.
On savait que cet aspect-là du texte, les 4 premiers articles qui étaient consacrés à la PMA et à la réforme de la filiation, allaient manger beaucoup de temps. Et de ce fait, allaient priver un certain nombre de sujets qui, ceux-là, étaient clairement bioéthiques, de temps de débat. C'est ce qui s'est passé sur la recherche sur l'embryon ou encore des questions comme celle du bébé médicament ou un certain nombre de sujets qui vont devoir être traités très rapidement, voire quasiment pas. Donc c'est vrai que le fait d'avoir inclus dans cette loi bioéthique la PMA et la réforme de la filiation, nous savions que ça allait être très difficile d'aller au bout.
C'était Annie Genevard au téléphone de Maïwenn Bordron. Pour mieux taxer les multinationales et notamment les GAFAM, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, préconise de changer les règles qui datent d'il y a 100 ans. Ainsi, les États seraient maintenant autorisés à taxer les entreprises à partir du moment où elles y font des ventes, même si elles n'ont pas de présence physique dans le pays. Une base prometteuse, disait hier Bercy, mais le responsable de plaidoyer justice sociale d'Oxfam n'est pas du même avis, Quentin Parinello.
On estime qu'aujourd'hui, les multinationales arrivent à délocaliser plus de 40% de leurs bénéfices réalisés à l'étranger dans les paradis fiscaux. Ces règles-là, elles vont continuer à être en vigueur pour la majorité des bénéfices réalisés par les multinationales et on va ajouter un deuxième système, donc une deuxième couche de lasagne, encore plus complexe, pour redistribuer certains droits à taxer sur les pays de marché. Les pays de marché, c'est principalement des pays développés et des pays émergents. Cette distinction entre les bénéfices normaux, routines, comme appelle l'OCDE, qui vont rester sous le système actuel, bien qu'il soit fortement imparfait, et une autre partie des bénéfices qui va être appelée bénéfices résiduels, qui va être appliquée selon une clé de répartition seulement sur certains business, on arrive dans une usine à gaz pour les administrations fiscales de nombreux pays, et pas simplement les administrations fiscales des pays en développement. Ça va être très difficile d'estimer quels sont les droits à taxer effectifs qui vont tomber dans leur escarcelle. Il y a encore des étapes. L'OCDE présente son consensus, ça doit être endossé par le G20, puis après il faut décider des détails qui sont encore à négocier entre les 134 pays. Puis après il faut que ça soit appliquée par les pays signataires. Donc on n'a pas encore fini le processus et c'est toute la difficulté de ce processus, c'est que pour l'instant, les pays qui ont montré le plus de volonté politique sur cette question, c'est notamment les pays riches. Et ce qu'on voit, c'est que le résultat des négociations, il protège les intérêts des pays riches au détriment des pays en développement.
Des propos recueillis par Marie Viennot. La météo de ce jeudi, le temps sera moins agité, surtout cet après-midi. Il restera nuageux avec une franche amélioration sur le sud de la France. Comptez 12 degrés à Besançon ce matin, 14 à Paris, 20 degrés à Nice.